Radio Okapi. Journal présenté par Patience Ngaloula.
Bienvenue à cette session de vos nouvelles. Au sommaire, fin ce mercredi du délai des dépôts des recours en rapport avec la présidentielle. Deux requêtes en contestation des résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier ont été déposées hier mercredi au greffe de la Cour constitutionnelle. Dans la ville de Boutembo, au moins 37 personnes ont été tuées en 2023 dans la commune de Boulengera. Ceci ressort du rapport bilan sécuritaire dressé par la société civile de la commune de Boulengera pour l'année 2023. L'invité de ce journal est Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Jean-Baptiste Itipo explique les critères d'éligibilité aux législatives nationales et provinciales. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par une page d'histoire. Nous sommes le 4 janvier, qui est la fête des martyrs de l'indépendance, qui tire son origine du 4 janvier 1959. Ce jour-là, en pleine colonisation belge, des émeutes ont éclaté à Kinshasa, appelée à l'époque Léopoldville. Les bilans de ces émeutes fait état, selon plusieurs sources, de plusieurs dizaines de morts et de la casse à grande échelle. Selon de nombreux historiens, ce jour a lancé la série des revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Dona Madimba nous fait ses rappels historiques.
Selon l'histoire, le parti politique de Kasavubu, qui deviendra d'ailleurs président de la RDC le 30 juin 1960 à Bako, prévoit ce jour un meeting sur la place Imka à Kinshasa. Objectif, ne pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Lumumba, MNC, qui avait lui organisé un meeting très suivi une semaine auparavant. Le jour du meeting, Kasavubu et les siens décident d'annuler pour ne pas porter la responsabilité si trouble il y avait, étant donné que les revendications d'émancipation étaient fréquentes en cette période et que les colons belges administrateurs de la RDC en ce moment-là avaient mis en garde Kasavubu. Le public du meeting, plusieurs milliers, déjà sur place, refuse toute annulation, commence à s'énerver, à casser et s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans ce même périmètre de plusieurs milliers des gens qui sortaient du stade de football après un match. La confusion, la casse et la répression vont s'aggraver. Les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations parlent de pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960.
Notez qu'en RDC, le 4 janvier est un jour férié, chômé et payé. Contentieux électoral, deux requêtes en contestation des résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier ont été déposées hier mercredi, dernier jour de dépôt au greffe de la Cour constitutionnelle. La première est celle de Théodore Ngoï, un des candidats malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Théodore Ngoï appelle à l'annulation du scrutin présidentiel. La seconde est celle d'un particulier moins connu au nom de Hachem Pala David, selon les greffes qui a clôturé la nuit la réception des recours. La Cour constitutionnelle a 10 jours dès sa saisine pour statuer sur les contentieux des résultats du scrutin présidentiel contesté. D'autres détails avec vous, Jeff Ngoï.
Théodore Ngoï conteste l'élection de Félix Tshisekedi pour nombreuses irrégularités. Il sollicite l'annulation du scrutin. Par ailleurs, devant la presse, il demande en même temps au président réélu de rassembler toute la classe politique. L'histoire des contentieux des résultats à l'élection présidentielle renseigne qu'en 2006, Jean-Pierre Bemba a juridiquement contesté l'élection de Joseph Kabila devant l'ancienne Cour suprême de justice. Un contentieux qui s'est soldé par une violence armée à Kinshasa quelques jours après. En 2011, l'opposant Étienne Tshisekedi va contester la réélection de Kabila. Il s'autoproclame président et prête serment dans sa résidence de Limité devant les médias. En 2018, c'est le tour de Martin Fayoulou contre l'actuel président de la République. Il va aussi se déclarer président élu. Mais de la Cour suprême à la Cour constitutionnelle, aucun scrutin présidentiel n'a été annulé en dépit de toutes ces contestations. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page du contentieux qui s'ouvre devant la Haute Cour. Celle-ci pourra soit débouter Théodore Ngoï, qui a eu moins d'1% et 17e dans le classement à l'élection présidentielle du 20 décembre, soit publier les résultats définitifs de la présidentielle le 10 janvier prochain, entérinant ainsi la décision de la CENI.
Restons en politique, Moïse Katumbi appelle les Congolais à faire échec à ce qu'il appelle fraude et braquage électoral. Il l'a dit ce mercredi dans une adresse à la Nation publiée sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il remercie les Congolais qui ont voté pour lui. On écoute Moïse Katumbi dans cet extrait choisi par Vanessa Kongolo.
À vous tous qui avez porté vos suffrages sur moi, à vous tous qui savez qu'ensemble, un nouveau Congo est possible, je vous fais le serment de ne jamais vous abandonner. Nous entrons aujourd'hui dans une autre phase de notre quête pour la liberté. Nous devons ensemble soustraire notre pays demain de la prédation, de la corruption, de la gabégie et de toutes les injustices. C'est pourquoi, avec d'autres compatriotes, avec les forces sociales et politiques, et prise de liberté, un sursaut citoyen est nécessaire. Sauver notre démocratie est devenu plus qu'une priorité. C'est un devoir et je ne faillirai pas à mon devoir citoyen. Raison pour laquelle je vous demande de ne pas baisser le bras, de ne pas céder au découragement ou au pessimisme, mais bien au contraire, de reprendre la marche que nous avons engagée ensemble. Parce que rien n'est fini, tout est encore possible et ce nouveau Congo, nous y avons droit et nous ne laisserons à personne le droit de briser le rêve que nous avons de le bâtir ensemble.
Vous le savez, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat président de la République, a été proclamé provisoirement par la CENI, vainqueur des élections de 20 décembre dernier. Les centres kassaïens l'ont voté à plus de 99% par rapport à d'autres challengers dans la course, selon les résultats publiés par la CENI. Mais ils disent espérer cette fois-ci la concrétisation des promesses de Félix-Antoine Tshisekedi pour les désenclavements et les développements de la province. François Kadima nous en parle.
Qu'ils se souviennent aussi de cette province. Nous avons faim.
Cette population du Kasaï central qui interpelle Félix-Antoine Tshisekedi indique avoir toujours de l'attachement pour lui. D'abord la route Kananga-Kalambambouji, pour laquelle il avait lancé des travaux depuis septembre 2022.
Nous, la route Kalambambouji-Kananga, c'est une route de l'espoir pour le développement de notre province.
Un autre projet relevé par la population, c'est le barrage hydroélectrique de Katende, que Félix-Antoine Tshisekedi a visité en janvier 2022 avec promesse de terminer rapidement les travaux pour donner du courant à la population. Face à Katende qui n'a pas donné de suite, c'est le micro-barrage Bombo. Une dynamique a même été constituée autour du projet et elle veut voir Félix-Antoine Tshisekedi trouver une solution urgente pour donner de l'électricité à la population. Un membre de la dynamique Chute Bombo s'exprime.
Nous lui demandons cette fois-ci de pouvoir concrétiser le projet Chitembombo qui est une solution palliative pour le décollage du développement de la province du Kasaï central.
Pour désenclaver la province, les centres kassaïens disent attendre également voir la route reliant Chikapa Kananga de s'achever, aussi Kananga Mbujimayi, sans oublier la voie ferrée toujours menacée par les têtes d'érosion. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Dans la ville de Butembo, au moins 37 personnes ont été tuées en 2023 dans la commune de Bulengera. Ces chiffres ont été communiqués mardi par la société civile locale. Selon cette structure citoyenne, les victimes avaient été tuées par des bandits armés, par pendaison et dans des vindictes populaires. John Kameta, président de la société civile de la commune de Bulengera, recommande aux autorités de prendre des mesures pour renforcer la sécurité dans cette municipalité. Il a été joint par André Kitenge.
Malgré les progrès réalisés, il reste des préoccupations significatives liées, entre autres, aux incursions nocturnes dans des maisons de paisibles citoyens et qui ont causé des pertes aux tueries ciblées qui ont coûté des vies humaines à 14 personnes habitant notre chère municipalité. Au cas de pendaison dont 6 personnes ont perdu leur vie, au cas de justice populaire qui nous a coûté 8 personnes, au cas d'accident de travail 3 personnes, au cas de mort communautaire 6 personnes ont été retrouvées dans des endroits sans vie. Au total, la commune de Bulengera durant l'année 2023 a perdu 37 personnes d'une manière non acceptable. Nous appelons les autorités compétentes à accorder une attention particulière à ces questions et à prendre des mesures concrètes pour renforcer la sécurité de notre chère commune.
En Ituri, 9 personnes ont été tuées et 9 autres blessées depuis le 1er janvier de cette année par des miliciens de la Codeco dans les localités de Parombo et de Tiopa dans les territoires de Djougou. Des sources locales signalent également les pillages de biens, les déplacements des populations et les mouvements des miliciens dans plusieurs entités. Elles redoutent la résurgence des violences des groupes armés. De leur côté, les services de sécurité qualifient ces exactions d'actes isolés attribués à certains miliciens incontrôlés.
Les premiers incidents s'est déroulé lundi, le jour de Nouvel An, dans le village de Parombo, à une centaine de kilomètres au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Divers témoignages rapportent qu'un leader de la milice Codeco a surpris sa femme dans un bar et a ouvert le feu sur la foule en liesse. 6 personnes sont mortes sur place, dont un milicien qui accompagnait son chef, précise des sources concordantes. 7 autres civils ont été blessés dans cette fusillade qui a entraîné les déplacements de certains habitants. D'autres miliciens de la Codeco qui étaient dans leur bastion à Parombo ont incendié la maison du présumé auteur de ces drames qui est en fuite. Mardi, 3 personnes ont été tuées et 2 autres blessées au cours d'une incursion de la Codeco à Tchokba, proche des Fataki dans les territoires de Djougou. Des mouvements des assaillants de ces groupes armés sont également observés dans d'autres entités comme Pimbo et Mbaou, ce qui inquiète la population qui redoute la reprise des violences par ces groupes armés. De leur côté, les services de sécurité qui qualifient ces drames d'actes isolés affirment avoir pris des dispositions pour sécuriser les populations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Toujours en Ituri, fermé depuis plusieurs mois en raison des attaques des rebelles ADF, le centre de santé de Tchabi dans le territoire d'Irumu tente peu à peu de se relever. Équipements et matériels avaient été incendiés ou pillés par ces groupes armés. Le personnel médical qui avait fui comme la plupart des habitants revient progressivement. Il manque de tout pour la prise en charge des patients qui affluent de plus en plus. L'équipe médicale, de même que les malades, espère un coup de pouce des partenaires tels que la MONUSCO pour réhabiliter et rééquiper les centres de santé. Reportage de Liliane Niacha.
Le conflit qui a poussé des populations de Tchabi en chefferie de Banyali Tchabi à fuir vers d'autres localités a aussi lourdement affecté le centre de santé. Complètement pillé, tout est à refaire, affirme ému le doyen des infirmiers Chadrak Indibo.
On a tout détruit. Ça nous fait mal. Ces gens-là... Ah, bon.
Ici, on avait détruit tous les microscopes, les ADF.
Et ils ont fusillé même les tanks qui sont là, ils ont détruit.
La présence et les patrouilles des armées ougandaises et congolaises ainsi que des casques bleus de la MONUSCO ont permis d'instaurer une relative accalmie qui encourage certains à revenir. Les malades affluent de plus en plus, mais il n'y a ni médecin ni équipement, déplore le personnel dévoué et optimiste. Alex Koudimeo, infirmier titulaire.
Partenaires qui nous suivent pour le moment, ne nous laissez pas parce que nous avons besoin énorme ici dans notre centre de santé.
Je remercie encore la MONUSCO d'avance pour les promesses. Il faut nous aider à réhabiliter les 2 bâtiments.
La MONUSCO a également promis une ambulance pour le transport dans de meilleures conditions des cas graves, souvent acheminés à moto vers l'hôpital de Boga. Liliane Niacha de retour de Tchabi, Radio Okapi.
En Bandaka, déplacement massif des populations à la suite des inondations monstres qui continuent à frapper les chefs-lieux de l'Équateur et ses environs. Depuis près d'un mois, les eaux du fleuve ne cessent d'augmenter. Elles ont envahi plusieurs quartiers, des champs, des habitations et édifices publics, causant la destruction, soit empêchant d'y accéder. Une correspondance de Paul Richard Malengela.
Tous les témoins affirment que l'actuelle inondation est de loin la plus vaste et la plus catastrophique de toutes celles que la ville de Bandaka a connues il y a des décennies. Pourtant, c'est la saison sèche actuellement, mais l'eau a quitté le fleuve en crue pour envahir tous les campements et les quartiers riverains. Certains quartiers dans la terre ferme sont aussi inondés à travers les collecteurs et caniveaux qui le relient au fleuve. Du coup, plusieurs ménages continuent à se déplacer. Chaque jour, les gens abandonnent leurs maisons détruites ou inondées dans les quartiers Bongonjo et Koundé, Kozelo, Petite Ville, Koko Agri, Bokilimba, Basoko, Boyeka et j'en passe. Des colis sur la tête ou dans des chariots, ils vont ailleurs chercher à s'abriter comme ils le peuvent. Car jusque-là, les autorités n'ont aménagé aucun site pour accueillir ces sinistrés. Faute de moyens, certains vont s'abriter dans des chantiers ou maisons abandonnées, les loyers étant devenus très élevés à cause de la forte demande de logements ces temps derniers en Bandaka. Le centre-ville n'est pas épargné. La circulation est coupée sur plusieurs artères, notamment sur les avenues communes de Yala, Royal, Mobutu, du Congo et Bolenge. Le quai du port public de l'ex-Onatra est totalement inondé. Au regard de cette catastrophe, les Mbandakais disent solliciter l'intervention urgente des gouvernements provincial et central en faveur de ces sinistrés. Mbandaka, Porcha Malengela, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les demandeurs de visas de sortie du Cameroun sont désormais soumis à l'obligation d'être en règle avec les fiscs. La mesure entrée en vigueur le 1er janvier vise, selon les gouvernements, à accroître les recettes fiscales. C'est l'une des nouveautés de la loi des finances 2024 en vigueur depuis le 1er janvier. Elle est instituée en remplacement de l'attestation des non-redevances, une attestation de conformité fiscale. La portée de ces documents est élargie et renforcée à travers notamment sa délivrance exclusive par voie informatique. Selon le gouvernement camerounais, cette nouvelle disposition est une mesure de promotion du civisme fiscal dans les pays.
L'invité.
Vous le savez, la CENI a reporté à une date ultérieure la proclamation des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales. Notre invité est le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Baptiste Titipo explique les critères d'éligibilité aux législatives nationales et provinciales. Il s'entretient avec Grace Anzati.
Jean-Baptiste Itipo, bonjour.
Bonjour.
Nous avons constaté qu'il y a des candidats qui se basent sur leurs procès verbaux, PV, pour déjà se déclarer élus. Quelle explication avez-vous à donner à ces candidats députés?
Les candidats qui le font doivent rester calmes et attendre les résultats provisoires qui seront annoncé ou publié par la Commission électorale nationale indépendante, seule habilitée à publier les résultats provisoires des élections. Vous savez, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte dans la publication de ces résultats. D'abord, on devra dégager au niveau national, en ce qui concerne les législatives nationales, le seuil légal de représentativité. Et donc, les candidats doivent rester calmes, savoir si leur liste aura atteint le seuil ou pas. Et même si la liste a atteint le seuil au niveau national, il faut voir maintenant au niveau provincial, est-ce que la liste a également atteint le seuil pour, n'est-ce pas, prétendre participer à la répartition des sièges. Donc, les uns et les autres sont invités vraiment à la patience et ne pas produire des fausses listes qui circulent sur la toile, qui induisent, n'est-ce pas, les gens en erreur.
Parlons de cette question des seuils de représentativité. Comment vous le faites, comment vous pouvez expliquer aux candidats la procédure de ces seuils de représentativité?
Merci pour la question, mais c'est une matière assez technique et qui mérite qu'on ait suffisamment du temps pour l'expliquer. Mais en peu de mots, c'est une innovation introduite dans la loi électorale depuis 2018, c'est-à-dire que pour espérer participer à la répartition des sièges, chaque liste devra atteindre le seuil légal de représentativité qui est de 1% au niveau, n'est-ce pas, national, 3% au niveau provincial et 10% au niveau, n'est-ce pas, local. Ça signifie quoi? Ce seuil est calculé sur base du nombre de suffrages valablement exprimés et non sur le nombre d'électeurs. Nous avions par exemple 40 millions d'électeurs enrôlés, les 40 millions n'ont pas voté, c'est peut-être 18 millions qui sont allés voter, et parmi ceux qui ont voté, qui ont valablement voté, exprimé, n'est-ce pas, le suffrage, à ce moment-là, on calcule le seuil sur base de ceux-là. Nous avons 500 sièges, n'est-ce pas, à la députation nationale, et on prend le nombre de suffrages valablement exprimés divisé par 500, nous pouvons avoir une idée déjà sur le seuil légal de représentativité qui varie, comme je viens de le dire, soit au niveau national, au niveau provincial, tout comme au niveau, n'est-ce pas, local. Un parti peut avoir atteint le seuil au niveau, n'est-ce pas, national. Est-ce qu'il a atteint nécessairement ce seuil au niveau provincial? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Si nous comprenons bien, un candidat peut avoir obtenu, par exemple, 15 000 voix, mais si son parti n'a pas atteint le seuil de représentativité, ce candidat-là ne sera pas déclaré élu, mais celui qui a moins de voix que lui, mais si son parti a atteint le seuil, peut être déclaré élu, c'est ça?
Bien entendu, bien entendu. Voilà pourquoi j'ai dit que les uns et les autres sont appelés, n'est-ce pas, au calme. Un candidat peut avoir, par exemple, 7000 voix et ne pas espérer participer, n'est-ce pas, à la répartition des sièges parce que son parti ou sa liste, parlons en termes de liste, sa liste n'a pas atteint le seuil légal de représentativité. Par contre, un autre qui a par exemple moins de voix que celui qui a 7000, mais dont la liste a atteint le seuil, peut espérer, n'est-ce pas, participer à la répartition des sièges. Le plus important est que la liste atteigne le seuil légal de représentativité.
Parlons cette fois-ci des cas de fraude qui sont dénoncés par-ci, par-là. Et parfois, ce sont les candidats d'une même famille politique qui s'accusent les uns et les autres. Est-ce que la CENI maintient jusqu'à aujourd'hui l'hypothèse d'annuler les scrutins dans certains endroits où ces cas de fraude ont été signalés?
Bon, cette question-là ne relève pas de ma compétence, mais tout ce que nous savons, c'est qu'il y a une commission, n'est-ce pas, qui a été mise par la Commission électorale nationale indépendante en vue d'approfondir, n'est-ce pas, les recherches ou les enquêtes sur cette matière. Et donc, il faudra attendre que cette commission rende son rapport au niveau de l'Assemblée plénière de la CENI qui en décidera.
Monsieur Jean-Baptiste Itipo, je vous remercie.
Merci beaucoup à la Radio Cap.
Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde par Polydor Basunga. Supervision et coordination, Alain Irung et Jude Bilanda. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.